informe aussi des démissions des messieurs Manger Lardy et Federici le 8 juin dernier. Et nous attendons que nous accueillons donc au sein du conseil municipal mesdames Stéphanie Faure et monsieur Gérard Bertrand. C'est aussi l'occasion de remercier messieurs Manger Lardy et messieurs Federici qui nous ont accompagnés durant toute la construction de notre programme et qui continuent encore à distance malgré leur démission de nous accompagner. Je vous propose de procéder à l'approbation du procès-verbal de la séance du 28 mai dernier. Alors, avant toute chose, y a-t-il des remarques ?
Oui, alors, j'étais pas là, mais j'ai pu suivre le conseil sur Internet et également voir le compte-rendu. Alors, sauf erreur, il me semble que lors de ce conseil, vous avez omis des obligations faites à l'article L2121-7 du Code général des collectivités territoriales, à savoir remettre aux conseillers municipaux une copie de la charte des élus que vous avez lue, mais surtout du chapitre 3 du titre 2 du livre 1er de la deuxième partie du code précité, qui concerne les conditions d'exercice des mandats municipaux. C'est dommage parce que cela aurait permis à tous les conseillers présents ici ce soir de mieux comprendre certains débats que nous aurons ce soir. Et d'ailleurs, à ce titre, je vous rappelle qu'il sera nécessaire de convoquer un conseil municipal avant le 28 août afin de délibérer sur le droit à formation des élus et les crédits ouverts à ce titre.
Merci Monsieur Perrault. Je me permets juste de rebondir à votre remarque, c'est que la préparation de ce conseil municipal était à la charge de votre équipe.
Cet article
Alors je vais forcer la voix, je vais essayer de tenir la soirée comme ça. Je précisais juste à Monsieur Perrault que la préparation de ce premier conseil municipal d'installation était à la charge de l'équipe municipale sortante et que malgré mes sollicitations, je n'ai pas pu être associée à la construction de ce conseil municipal-là. Mais je prends note de votre remarque et je vous remercie. Alors, je vous propose de voter à main levée pour l'approbation donc, de ce procès-verbal. Qui est pour ?
Unanimité.
Très bien. Afin d'éviter les déplacements et pour respecter les règles de distanciation sociale, je vous remercie de signer le PV disposé sur la table lors de votre sortie. Dans les projets de délibération que nous avions ce soir, nous avions indiqué le vote des taux de fiscalité directe locale 2020. Il se trouve que, suite à une erreur administrative, ce point a été voté au Conseil municipal du 17 février. Il s'agit de la délibération 2020-05 et donc ce point n'a pas lieu d'être inscrit à l'ordre du jour. Ceci étant dit, c'est l'opportunité de confirmer ou d'infirmer notre volonté de ne pas modifier les taux d'imposition actuellement en vigueur pour l'année 2020. Je vous propose de voter la suppression de ce point à l'ordre du jour. Y a-t-il des remarques ? Qui est pour la suppression de ce point ? Et donc, il s'agit bien pour nous de confirmer notre volonté de ne pas modifier les taux d'imposition. Il me semble que nous avions des amendes en secret. Donc, nous devons désigner un secrétaire de séance, ça n'a pas été fait. Je propose que le secrétaire de séance soit le plus jeune de notre assemblée, et donc je risque. Alors, le point suivant est celui de l'indemnité des fonctions du maire et des adjoints. Concernant le vote des indemnités des élus, il est proposé de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions du maire, des adjoints et des conseillers municipaux, comme indiqué dans les tableaux figurant dans votre convocation. Donc à savoir, pour le maire, une indemnité égale à 51,6% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Pour les adjoints, une indemnité égale à 13,2% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, pour les conseillers délégués, une indemnité égale à 8,8% de l'indice brut, etc. Pour les conseillers, une indemnité égale à 4,4% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire. Je vous précise également qu'il est proposé au conseil municipal que cette décision prendra effet à la date d'installation du conseil municipal, soit le 28 mai, et que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction des évolutions de la valeur du point d'indice. Y a-t-il des remarques ?
Alors déjà, ce que vous venez de dire n'est pas conforme à vos projets de délibération que j'ai, puisque il y a une différenciation sur les indemnités des adjoints. Le premier adjoint est fixé à 13,2 et les autres à 8,8 dans le projet que j'ai.
Tout à fait, oui. C'est ça.
Donc vous avez dit les adjoints à 13,2.
Vous avez raison.
D'accord.
Merci, voilà. Monsieur Perrault. Il y a une erreur. C'est le premier adjoint à 13,2, effectivement. Les adjoints suivant et les conseillers délégués, une indemnité égale à 8,8%. Merci effectivement pour ce rectificatif.
J'ai beaucoup d'autres remarques, mais maintenant, si vous voulez commencer.
Oui, j'ai une remarque également, c'est que François Delcourt n'a pas souhaité avoir l'indemnité, il n'est donc pas dans la liste des conseillers qui touchent l'indemnité.
Tout à fait.
Donc, alors, d'abord, vous avez choisi d'augmenter de 20% les indemnités du maire, ainsi que l'enveloppe globale des indemnités des élus, en les fixant à leur maximum légal. Moins 4,4% effectivement, puisque monsieur Delcourt ne bénéficie pas d'indemnité. Donc vous dites dans la délibération que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, c'est possible, j'en doute un peu, mais bon, enfin vous aurez loisir de faire un budget rectificatif d'ici la fin de l'année. Sur le fond, le projet de délibération qui nous est proposé appelle plusieurs remarques qui vont nécessiter quelques modifications avant que nous puissions la voter. Tout d'abord, dans le dernier considérant, vous indiquiez que le conseil municipal peut voter une indemnité pour l'exercice du mandat de conseiller municipal. Ce n'est pas ce que disent les textes. Le conseil municipal peut voter une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal. Donc je vous demanderai donc de remplacer « du mandat » par les mots « effectif des fonctions ». Sur les indemnités du maire, l'article L2123-20-1 du Code général des collectivités territoriales nous dit « Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les 3 mois suivant l'installation du conseil municipal. » Et dans un article suivant, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire. Dès lors que vous avez choisi de fixer les indemnités du maire au maximum légal, le conseil municipal est incompétent pour les voter. Afin que cette délibération soit légale, je vous demanderai donc soit de supprimer des deux tableaux la mention des indemnités du maire. De toute manière, la mention des indemnités du maire ne doit jamais être indiquée dans le deuxième tableau, soit de proposer une diminution de ces indemnités. Vous voulez répondre à ça maintenant ou je continue sur la suite ?
On continue.
Alors, sur les indemnités des adjoints et conseillers délégués, l'article 2123-17 du même code, je ne vais pas le citer à chaque fois, indique avant de proposer des possibilités d'exception que les fonctions du maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. Il est ensuite donné la possibilité au conseil municipal de voter des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint ou de conseiller délégué. Il ne s'agit pas d'une rémunération, mais d'une indemnité qui vient compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l'exercice de fonctions supplémentaires. Frais de déplacement, de représentation, perte de revenus professionnels et ou non professionnels. Ce n'est pas la fonction d'adjoint qui peut être indemnisée, elle est gratuite. Mais ces autres fonctions qui lui sont conférées par les délégations que le maire lui octroie. D'ailleurs, un adjoint qui se verrait retirer ses délégations se verrait également retirer ses indemnités. La jurisprudence vous indique que ces indemnités doivent être fixées en fonction de critères objectifs, et plus particulièrement au regard des fonctions du maire qui sont déléguées aux adjoints. Vous proposez de fixer les indemnités de M. Taillon à 13,2% de l'indice brut et les autres adjoints à 8,8%, soit inférieur de 33%. Or, quand je regarde les arrêtés de délégation que vous avez signés le 8 juin, qui sont très succincts, alors qu'ils devraient être précis et détaillés, il me semble que les délégations données à M. Taillon ne justifient pas un tel écart. En effet, au vu des arrêtés, les délégations données à M. Taillon sont exprimées par ces uniques mots « aménagement du territoire » et « transition écologique ». Ce qui me semble, par exemple, bien moins chronophage que celle donnée à M. Perardel, « urbanisme, voirie et réseaux communaux » ou à Mme Pichon, « finances, gestion et entretien du patrimoine communal ». Je vous demanderai donc soit de revoir la grille indemnitaire, soit de préciser les délégations que vous accordez aux adjoints et conseillers délégués. Enfin, vous indiquez dans la délibération que cette décision prendra effet à la date d'installation du conseil municipal. Cela est admis à titre exceptionnel pour la première délibération sur les indemnités en dérogeant au principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Toutefois, si cela est exceptionnellement permis pour les conseillers municipaux, il n'en va pas de même pour les adjoints. Ils ne pourront percevoir d'indemnité qu'à partir de la date de transmission des arrêtés de délégation en préfecture, date que je ne connais pas, mais qui est forcément postérieure au 8 juin, date à laquelle ces arrêtés ont été signés. Je vous renvoie pour ça à la page 24 de la note de la préfecture qui précise ces choses de manière... Enfin, si vous voulez que je vous les lis, mais c'est précisé vraiment mot pour mot. Je vous demanderai donc de rectifier la phrase concernant la date d'effet de cette délibération, en y ajoutant les mots « pour les conseillers municipaux » et « à la date exécutoire des arrêtés de délégation » pour les adjoints et les conseillers délégués. Enfin, sur les indemnités que vous souhaitez attribuer à la fonction de conseiller municipal. Vous proposez d'indemniser l'ensemble des conseillers municipaux de la liste majoritaire, à l'exception de l'un d'entre eux, M. Dancourt. Je ne sais pas quelle est la raison qui a géré le pourquoi, peut-être que ce sera le prochain démissionnaire de votre liste, je n'en sais rien. Bon, là encore, la délibération est entachée d'illégalité, puisque les textes nous disent qu'il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal. Or, les simples fonctions effectives de conseiller municipal, qui sont les seules qui puissent être indemnisées, sont égales que l'élu appartienne à la majorité ou pas. À fonction égale, indemnité égale. Comme il a été jugé le 22 février 2017 par le tribunal administratif de Melun, bien que le fait d'indemniser ces fonctions uniquement pour les élus de la majorité constitue une mesure discriminatoire. Afin de faire cesser le caractère discriminatoire de cette délibération, je vous demanderai donc non pas de proposer l'indemnisation des conseillers n'appartenant pas à la majorité, puisque dans ce cas, l'enveloppe maximale serait dépassée, mais de supprimer de la délibération les indemnités des simples conseillers municipaux qui conserveront ainsi leurs fonctions gratuites. Et par conséquent, vous pourrez modifier également la phrase que je vous ai demandé de modifier tout à l'heure concernant la date des faits en la remplaçant par que cette décision prendra effet à la date exécutoire des arrêtés de délégation, puisqu'il n'y a plus d'indemnisation pour les conseillers municipaux. Voilà, j'en ai fini.
Merci beaucoup, Monsieur Perrault, pour toutes ces précisions. Vous m'aviez dit que vous aviez travaillé sur ce dossier en tant qu'attaché parlementaire, et je vois qu'effectivement, vous maîtrisez très bien le sujet. Je vous en remercie. Concernant certains points, je vais répondre assez directement. Donc, rassurez-vous, nous ne comptons pas faire de favoritisme en fonction des conseillers de l'opposition, enfin de notre liste par rapport à ceux de l'opposition. Ce n'est absolument pas le principe de notre fonctionnement. Donc, il y a effectivement une part qui est réservée pour permettre à un conseiller de la liste non majoritaire de pouvoir bénéficier, suivant son implication, également d'indemnité. Ensuite, si vous avez suivi notre projet tel que nous l'avons présenté à nos concitoyens, il s'agit vraiment pour nous d'exercer la démocratie d'une manière participative et de porter les fonctions municipales avec les adjoints, mais aussi avec les conseillers. Donc avec des personnes qui sont là en support, en binôme, qui participent activement aux réunions, qui prennent sur leur temps de travail. Et donc c'est effectivement pour ça que nous avons décidé collégialement de proposer à nos conseillers, même s'ils sont conseiller sans titre plus honorifique que cela, de bénéficier aussi d'une indemnité pour pouvoir se libérer sur leur temps de travail et participer activement à la vie communale. Concernant la situation de M. Thomas Théon, c'est aussi un point qui a été vu avec l'ensemble de notre liste, et donc je comprends qu'il vous surprenne puisque vous n'avez pas participé à l'élaboration de toute cette réflexion-là, mais en tant que premier adjoint, il va avoir des missions à assurer qui seront des missions de coportage aussi de projets avec moi, et c'est à ce titre-là que son indemnité est supérieure, et ça a été validé par l'ensemble des membres de notre équipe. Je comprends que ça soit surprenant pour vous.
Je suis désolé, c'est au conseil municipal de valider cela, ce n'est pas aux membres de l'autre équipe.
Alors, Monsieur Perrault, si vous voulez, je ne vous ai pas donné la parole.
Je vais attaquer cette décision, madame. Monsieur Perrault. Je vais l'attaquer, c'est-à-dire parce qu'elle est parfaitement illégale.
Je vous en prie, faites-le. Nous faisons des propositions. Ces propositions peuvent être amendées. Et aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est la proposition de notre équipe. Ce n'est pas seulement ma proposition personnelle. Voilà. Et c'est en ça que je vous dis que cette proposition a été pensée par l'ensemble de notre équipe et elle vous est présentée ici. Maintenant, vous avez tout à fait le droit de proposer des amendements et vous faites bien puisque c'est un sujet que vous maîtrisez très bien et sans doute qu'aujourd'hui vous nous demandez des modifications qui sont tout à fait légitimes. Je me tourne vers vous, David, qui connaissez assez bien le sujet. Est-ce qu'il est pertinent d'intégrer les remarques de M. Perrault ?
Effectivement, il y a certaines remarques qui me paraissent nécessaires pour valider la légalité de la délibération. Il y en a d'autres qui me paraissent être plutôt du relevé d'un choix politique. Et donc à ce moment-là, c'est une discussion qu'il faut avoir sur, je pense que sur notamment le niveau de la rémunération des différents élus, la manière de justifier cette rémunération, ça repose sur une volonté politique. Donc après, il faut pouvoir la justifier ou non, mais...
Je peux vous donner la solution pour que votre délibération soit légale. Il suffit que vous donniez des délégations à tous les conseillers municipaux de la majorité. Dès lors qu'ils n'ont pas de délégation, ils ont exactement la même fonction que moi. Et donc, le fait de voter des indemnités à M. Renault en face de moi n'a aucune espèce de légalité. Dans la mesure où nous exerçons exactement la même fonction. C'est donc une mesure discriminatoire. J'ai la jurisprudence avec moi, si vous voulez. Je peux vous la faire lire.
Monsieur Georges ?
Oui. Ce que Olivier est en train de vous dire, c'est simplement qu'il n'y a pas de problématique pour que les conseillers municipaux puissent être indemnisés. Donc il faut que ce soit justifié par des fonctions précises et écrites. Donc, quel que soit votre projet politique, vous pourrez le mettre en œuvre sous condition que la délibération qui ensuite sera votée en conseil municipal précise les fonctions des uns et des autres et soit dans la légalité. Si ce n'est pas Olivier qui vous le faisait remarquer là maintenant, ce serait la préfecture qui retoquerait la délibération. Donc, quelque part, vous voyez plutôt dans l'apport d'Olivier une nécessité de revisiter la délibération pour nous la faire voter dans la légalité. Sinon, elle sautera de toute façon. Voilà. Je le répète, quel que soit votre projet politique et ce que vous voulez porter, qui peut très bien se justifier.
Se prenant par arrêté municipal, nous allons rectifier la situation, nous prendrons des arrêtés municipaux pour que chaque conseiller puisse avoir une délégation qui corresponde à son implication dans la vie communale.
Dès lors, il faut supprimer la mention d'indemnité aux conseillers municipaux pour ne laisser que la mention d'indemnité aux conseillers délégués. Mmh. Voilà, mais par contre, vous avez un problème de taux, puisque le taux de 8,8% qui est attribué aux conseillers délégués ne peut pas être valide pour les conseillers délégués de seconde zone, puisque vous dépassez l'enveloppe. Donc, il faudra forcément passer par une prochaine délibération une fois que vous aurez pris les arrêtés. Si vous voulez qu'on se retire quelques minutes pour que vous puissiez discuter entre vous, je...
On est sur des points qui sont vraiment très, très pointus. Ce qu'on vous propose, c'est donc de dissocier en deux points, d'une part l'indemnité du maire, puisqu'elle n'a pas besoin de passer en conseil municipal. Et comme je l'avais annoncé aussi dans mon mandat, et vous notiez l'augmentation de l'indemnité du maire, je demande effectivement l'indemnité maximum, puisque moi j'ai laissé mes fonctions à côté et que je n'aurai pas d'autres fonctions, ni à la métropole, ni par ailleurs. Donc c'est l'explication de cette augmentation-là. Et d'autre part, nous vous soumettons malgré tout le tableau tel qu'il est là et nous ferons le nécessaire pour modifier les délégations afin qu'elles soient conformes au point que vous avez soumis, M. Perrault.
Pour ce qui concerne les adjoints et les conseillers délégués actuellement...
Voilà, tout à fait.
Béatrice, attention, le nombre de conseillers délégués est limité. Donc,
non, il n'est pas limité.
Il n'est pas limité.
Non.
C'est les adjoints. D'accord. Donc on peut en mettre autant que vous voulez.
Donc dans le tableau tel qu'il est présenté. On modifiera donc à conseiller, on rajoutera à conseiller délégué, mais en expliquant par ailleurs que leur fonction justifie le fait que leur indemnité soit inférieure.
Je ne comprends pas. Donc là, parce que du coup, vous n'aurez pas de tableau. Donc du coup, je
répète, M. Perrault, le tableau tel qu'il vous est présenté reste le même avec ce barème-là. Les conseillers délégués seront présentés de la même manière pour les trois conseillers délégués tels que vous trouvez. Et ensuite, les conseillers délégués suivants, nous justifierons le fait qu'il n'est pas le même niveau d'indemnité.
Je suis désolé, on ne peut pas voter aujourd'hui des délégations qui n'existent pas. Des indemnités pour des délégations qui n'existent pas.
Les délégations se prennent par arrêté. Ce qu'on vote aujourd'hui, ce ne sont pas les délégations.
Ce sont
le principe de l'indemnité.
Ah non, je suis désolé. Je suis désolé. C'est-à-dire que vous n'avez pas. D'autant plus que vous devez mettre dans le tableau c'est pas possible. Non, c'est une. Vous ne pouvez pas voter les indemnités pour un conseiller délégué qui n'existe pas. C'est-à-dire que lorsque vous retirez des délégations d'un adjoint.
Monsieur Perrault, les délégations existent. Puisque nous avons présenté un projet où les conseillers délégués sont binômes de conseillers ou d'adjoints déjà en poste. Donc ces personnes-là sont déjà identifiées.
Où est-ce qu'il est ce projet ?
Monsieur, je vous l'ai expliqué juste avant, que dans notre manière d'avancer, nous avons des conseillers qui interviennent activement sur les dossiers et qui sont là en binôme, des adjoints, parfois en trinôme, etc. Donc nous pourrons... Très facilement.
Attention, parce que vous n'avez pas le droit de donner la même délégation à deux conseillers.
Bien sûr.
On est d'accord.
Bien sûr.
Non, mais, oui, mais peu importe, on peut pas. Actuellement, on a 6 adjoints qui sont nommés, 3 conseillers délégués, pour lesquels il y a des arrêtés. Bien. Aujourd'hui, on vote leurs indemnités. On ne va pas voter des indemnités de conseillers délégués putatifs, dont on n'a aucune idée de ce que. On ne peut pas voter quelque chose qui n'est pas effectif. Moi, j'ai besoin, pour pouvoir délibérer, de regarder les délégations, de justifier si, de vérifier si ces délégations sont conformes et suffisamment précises pour justifier l'indemnité et de leur niveau. C'est pas possible. J'ai ici les 9 délégations, j'ai pas les 16 délégations.
Donc là, nous vous présentons une grille qui s'appliquera pour l'ensemble du mandat et qui variera en fonction des délégations.
Alors, je suis désolé, je serai obligé d'attaquer la délibération.
Oui, monsieur Jean.
Oui, plusieurs points. Premier point, en ce qui concerne votre propre indemnité et le fait qu'elle soit au maximum. Vous n'avez pas à vous en justifier. Vous pouvez le faire, mais vous n'avez absolument pas à vous en justifier. Et à titre personnel d'ailleurs, je trouve ça normal. Bon. Sur le second point, vous ne pourrez pas faire voter cette délibération aujourd'hui. C'est ça qu'on est en train de vous dire, parce que du moment que vous n'apportez pas toutes les précisions qui sont nécessaires pour l'ensemble des conseillers, point par point, nominativement, et qu'on les connaît, on ne peut pas délibérer. Ce serait illégal. Donc on ne peut pas. Si par ailleurs, vous voulez encore en rediscuter entre vous, vous pouvez aussi demander tout simplement une suspension de séance de 10 minutes. Je pense qu'Olivier n'aura pas de problème pour en discuter avec vous, avec votre directeur des services. Il n'y aura pas de souci particulier, je pense. Et enfin, j'ajoute juste un point, parce que tu t'es trompé tout à l'heure, enfin, tu t'es pas trompé, tu faisais une hypothèse, mais elle est fausse. Nous avions bien prévu au budget d'augmenter de 20% l'enveloppe globale, puisque la loi était déjà passée à l'époque, et donc de ce point de vue-là, il n'y aura pas de souci.
Bien sûr, c'est M. Perrault lui-même qui me l'avait dit au téléphone.
Donc, voilà, effectivement, oui. Je ne me souvenais plus de la chronologie de la loi.
Je confirme.
Voilà, parce qu'on est d'accord. Oui.
Pour le reste, si vous voulez discuter deux minutes de si la délibération est valide, mais il faut suspendre la séance.
On va faire une suspension de séance.
Vous voulez qu'on en discute ?
On fait d'abord un
tour. On vous a largement compris, monsieur Perrault. Merci.
Je pense que c'est un peu plus de 150 euros.
Telle qu'on l'a faite, c'est-à-dire de présenter le tableau en l'état avec 6 adjoints et 10 conseillers délégués, dont pour l'ensemble, voilà, c'est un tableau qui vous est présenté pour l'ensemble du mandat. Et les délégations pourront être amenées à évoluer au cours du mandat et justifier l'attribution du taux qui est indiqué. Alors, nous allons procéder au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? 3 contre. Et 4. Oui, pardon, 4 contre, oui, bien sûr. Et qui s'abstient ? Donc, une personne.
J'ai une question sur les votes à main levée. Est-ce que les pouvoirs, les délégations de vote s'appliquent ou pas ?
Pour lever de main.
Lever de main. On s'abstient de lui.
Donc nous allons passer au point suivant. Félix, je te donne la parole. Il s'agit du tarif d'Actigen.
Alors, il est proposé au conseil municipal d'approuver les tarifs ACM tels qu'indiqués dans la convocation. Ils seront applicables le jour de la rentrée scolaire 2020-2021 et intègrent une augmentation de 1% arrondie à la décimale supérieure.
Y a-t-il des remarques? Alors, par contre, Monsieur Perrault, je vous prie de faire une remarque assez brève, succincte, d'aller droit au but, parce que là,
oui, oui,
vous avez déjà énormément de points sur ce de temps.
Non, mais j'ai juste, là, c'est vraiment très peu. J'ai juste une petite remarque dans le double codicille qui se trouve à la fin. Pour les QF inférieurs à 650, blabla, je vous ai mis de 0,01 à 1,34. Et sauf erreur, ça a été changé et c'est passé à 1,37.
D'accord.
Voilà.
Effectivement, on ne va pas revenir en arrière, on va partir effectivement de ce qui avait été.
C'est la dernière délire qui a été faite à la suite de l'augmentation de l'aide CCAS.
Merci, Monsieur Perrault. Donc, je vais procéder au vote. Qui est pour en intégrant cette modification de 1,37 ? Voilà la majorité. Merci. Voilà, donc accepté à l'unanimité. Alors, nous passons au point suivant. La prime exceptionnelle Covid. Donc, Sophie Pichon, je te laisse la parole.
Donc, il vous est proposé l'attribution d'une prime exceptionnelle aux agents de la collectivité qui se sont donc particulièrement investis pendant la crise de l'épidémie de la Covid-19. Donc, ces agents ont particulièrement dû faire preuve d'adaptabilité pour assurer donc la continuité du service public. Cette prime, elle s'adosse notamment au décret 2020-570 qui attribue une prime exceptionnelle au personnel de l'État et par parallélisme des formes, donc elle s'applique également aux collectivités territoriales. Nous devons, en tant qu'employeurs, donc, nous prononcer sur l'opportunité de la mettre en place et également d'en définir les modalités d'application. Donc, au niveau des modalités d'application, nous vous proposons une grille, en fait, qui distingue plusieurs choses. Donc, une grille avec un montant plafond de prime à 550 € ou 300 € suivant donc les différentes catégories. Les bénéficiaires, ce sont les agents contractuels et également les agents titulaires qui ont travaillé durant la période du 17 mars au 10 mai. Et donc, au niveau des modalités d'attribution, donc on vous propose de considérer une double entrée, c'est-à-dire de considérer les agents qui ont travaillé et qui ont travaillé directement en contact avec du public et qui ont également été en contact avec les surfaces potentiellement contaminées, et puis de distinguer ceux qui ont plutôt télétravaillé ou qui ont travaillé également en présentiel, mais sans forcément avec un contact important de public, et ceux en fonction du temps travaillé, c'est-à-dire moins de 15%, entre 15 et 30%, entre 30 et 50% ou plus de 50%. Donc vous avez un échelonnement de cette prime qui pourra aller donc de 100 € jusqu'à 550 € suivant les conditions. Cela concerne au total 23 agents dans notre collectivité pour un coût qui est évalué à environ 6 700 €, ce qui représente à peu près 0,5% de la masse salariale, donc du budget prévisionnel. Je pense que j'ai fait le tour de la description.
Donc, je vous propose de m'autoriser à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de cette prime exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus. Y a-t-il des remarques? Aucune, mais c'est parfait. Donc, qui est pour? Très bien, à l'unanimité. Le point suivant concerne la convention avec le centre de gestion 69, le service intérim et le portage salarial. Donc, considérant que sur certaines périodes, nous devons faire face à un accroissement temporaire d'activité ou assurer des remplacements d'agents absents, considérant qu'il est parfois nécessaire de faire face à ces situations dans l'urgence, et considérant qu'en fonction des situations, il peut être nécessaire de faire appel à une personne expérimentée et qualifiée pour laquelle le contrat de vacataire n'apparaît pas opportun, considérant que le centre de gestion dispose d'un service intérim permettant de proposer des agents formés et expérimentés dans des délais courts et pour un coût raisonnable, je vous propose de m'autoriser à signer la convention jointe avec la convocation qui permettra, si le besoin se présente, de faire appel à ce service. Y a-t-il des remarques ? Aucune. Nous pouvons donc voter. Qui est pour ? C'est accepté à l'unanimité. Et nous avions prévu à ce moment une interruption de séance pour donner la parole au public. C'est donc à vous. Si certains d'entre vous ont des questions, c'est le moment de...
On ne vous entend pas. Alors on est venu pour rien.
J'en suis désolée, on va
bah, prenez un micro la prochaine fois.
Tout à fait.
Parce que vraiment, c'est pénible. Moi, j'ai qu'envie de partir.
J'en suis désolée pour vous, madame.
Ah, oui, je regrette beaucoup.
Oui.
Donc, Cédric Drenet, je parle au nom du club de tennis et globalement des associations pour savoir comment allaient être gérées les demandes de subventions. Parce que la présidente municipalité, les demandes étaient étudiées au cas par cas. Et puis celle d'avant, c'était une dotation annuelle aux associations. Et concrètement, pour le titre, on a déposé un dossier. On n'a pas eu de retour pour le moment. Donc savoir s'il avait été étudié, si ce sera dans un paquet avec d'autres demandes, qu'il en est. Et puis un point très précis aussi qui a été demandé, on n'a pas eu de retour. On a des problèmes d'intrusion sur le court couvert. On a demandé simplement de fixer une plaque en acier à l'entrée du cours et voilà, savoir si ça avait été, si ça avait été étudié de votre côté.
Oui, tout à fait. Donc on a mis ce point auprès des services techniques qui devaient, là, cette semaine, souder une plaque. Voilà. Donc il me semble que c'est fait. Je vous laisse, ouais, d'accord. Vous me dites que non. On a effectivement sur le service technique actuellement... un problème d'effectif qui explique peut-être qu'on n'a pas pu le faire comme prévu. Mais en tout cas, c'est bien un sujet pour nous. Est-ce que tu souhaites répondre sur les subventions, peut-être
Concernant les subventions, on a décidé de reporter les demandes au prochain conseil municipal pour la simple et bonne raison que j'ai besoin de temps pour prendre connaissance de l'ensemble des dossiers. Et pour certaines subventions, j'ai des documents qui étaient... Soit je ne les avais pas sous la main, soit... voilà, j'ai juste besoin de temps pour prendre ces dossiers en main. Mais par contre, c'est bien à l'ordre du jour du prochain conseil municipal.
Merci.
Ça sera traité rapidement.
Oui.
Oui, je voulais demander, j'ai eu des remarques de personnes âgées qui me parlaient du cimetière. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé au cimetière. Et puis, qui est dans un état où l'herbe a poussé, enfin, que c'est un peu verdant. Donc, par rapport aux équipes d'espace vert, ça va avancer? Comment ça va se passer pour que c'est réglé assez vite quoi. C'est vrai que ça vient en fruche.
Effectivement, ça nous a été signalé très rapidement quand on a pris nos fonctions. Je pense que la période de confinement n'a pas dû aider la situation non plus.
Les gens sont conscients aussi.
Voilà, il y a ce problème d'effectifs. Et donc pour régler ça, on n'a qu'une solution, c'est maintenant de procéder à des recrutements rapides pour pouvoir rétablir une situation plus agréable, effectivement.
Ça serait bien, enfin je ne sais pas, de l'expliquer un peu aux gens, parce que enfin, quand ils vous appellent, parce que je pense qu'ils vont commencer à vous appeler en disant les cimetières, ça a toujours été le cimetière, quelque chose de très... personnel quoi. Et donc
leur expliquer, quoi.
Du coup, on a l'information que ce qu'on appelle les brigades vertes, qui est donc une entreprise d'insertion, qui travaille pour nous d'habitude. Donc là, effectivement, ils ont aussi subi la crise de confinement, avec un peu moins d'équipes sur le terrain. Donc là, on vient de signer le devis pour une intervention de plusieurs jours pendant l'été, et le cimetière fait partie d'une de leurs missions.
Donc, près des Anglais, il y a un petit chemin qui serpente, et il y a deux escaliers qui sont cassés.
D'accord.
Dangereux.
On en prend note et du coup on fera le nécessaire.
C'est un
bonjour.
C'est ancien. Est-ce qu'il y a d'autres marques dans le public?
Dans le public ou ailleurs, hein. Alors, l'interruption de séance, c'est pour tout le monde. C'est pas
oui, d'accord, mais le règlement intérieur, par contre, pour les questions des conseillers, c'est en fin de séance. Dans le règlement intérieur. Oui.
Oui, moi j'ai une question, je m'interroge effectivement par rapport à ce qui vient d'être dit concernant les entretiens, que ce soit du trait des Anglais ou du cimetière. Quid des employés municipaux? Pourquoi faire intervenir les brigades vertes au cimetière? Est-ce qu'on pourrait avoir quelques précisions sur le fonctionnement actuel, effectivement, parce que j'ai pu aussi constater qu'il y avait une végétation qui poussait fortement. J'entends très bien qu'il y a eu la période du confinement. Voilà, mais on a aussi des employés municipaux qui sont normalement, je termine, merci, qui sont là pour entretenir la commune, qui le faisaient, qui sont à même de le faire très bien. Enfin voilà, est-ce qu'on pourrait avoir quelques explications, s'il vous plaît?
Oui, donc vous savez qu'on a une équipe qui est très réduite, hein, oui, sur l'espace. Quatre agents, c'est une équipe réduite. Donc à partir du moment où il y a des personnes qui sont en arrêt maladie, et vous savez qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont en arrêt maladie, qui ont été arrêtées pendant la période du Covid aussi, et donc ces personnes-là n'ont pas pu reprendre leur poste. Donc on a une personne qui est là en complément, mais effectivement sur les trois postes initiaux, actuellement on a deux arrêts et une personne qui est limitée dans les tâches qu'elle peut exercer. Donc c'est vrai que malheureusement la situation là est très dégradée.
Je peux compléter parce que on vise en premier à la sécurité. Pendant tout le confinement, rue 8 mai, il y avait un silo qui était placé sur le trottoir en face des Loupanes. Donc les services ont bougé pour justement permettre aux gens de cheminer en mode doux sur le trottoir et non pas être obligés de descendre sur la route. Donc ça a été fait cette semaine. Également autour des silos, comme ils étaient fermés, scotchés pendant le confinement, qui continuent à déposer autour de ces silos, donc il y avait la saleté qui s'amassait, donc ils ont été nettoyés cette semaine. Peu de la résistance au niveau du chemin piéton le long du ruisseau, il est également en friche, ça c'est normal, le Covid ne va pas empêcher les orties de pousser, mais le principal qu'on a fait dans ce cheminement, c'était le grillage, puisqu'on a eu des dégradations par deux fois, donc on a intervenu deux fois, donc on a renforcé les pieux et on a rendu le dos. Et on a donc rattaché le village. Et il y avait également un portail qui était rouillé. Ça, c'est la faute à personne, c'est la faute au temps, ou à l'entretien. Et celui-là, il a été cassé, avec un risque que les enfants tombent dans le vaisseau. Donc il a été fermé et scellé. Voilà. Donc, on vise, avec le peu d'effectifs qu'on a, à faire le maximum pour la sécurité des Saint-Germainoises et Saint-Germainois.
Puis-je apporter une précision pour le cimetière?
Je vous en prie.
Je vous devine, mais...
Oui, on se voit à travers la boîte.
Je rappelle qu'il y a eu pendant quelques années des procédures de reprise de tombes.
Oui.
Donc il y a beaucoup de végétation sauvage sur ces tombes abandonnées à laquelle on ne pouvait pas toucher, sinon les tombes n'étaient plus classées abandonnées. Donc ce qui fait qu'il y a quelques tombes où il y a des acacias qui poussent, il y a des gros buissons.
Tout à fait.
Et qu'on ne pouvait pas désherber tant que la procédure n'était pas terminée.
Tout à fait.
Voilà.
Et de la même manière qu'il y a des procédures qui peuvent être amenées à, à se renouveler, il faut constater l'abandon. Et donc, il y a effectivement certaines tombes auxquelles on ne peut pas, on ne peut pas entretenir pour pouvoir...
Alors, on a l'impression que ce n'est pas entretenu, mais c'est volontaire.
Voilà, il y a une partie qui est volontaire et il y a aussi une partie sans doute voilà, qui a pâti du manque de personnel ces derniers temps.
Je voulais juste savoir, c'est une question que je pose par rapport au cimetière. Oui. Quand on a posé la plaque, combien d'années ça doit rester en l'état?
Quelle plaque?
En fait, on met sur les tombes un avis pour prévenir une éventuelle...
Ah, la plaque est reprise. Voilà. Oui. Je crois que c'est 3 ans.
3 ans,
oui. 3 ans. Je regrette, mais il y a beaucoup plus de 3 ans qu'elles y sont. Alors, je pense qu'il y a un moment que le cimetière aurait pu être nettoyé. Parce que moi, la malheureusement, il y a longtemps que je vais au cimetière. Hein.
La procédure n'est pas finie depuis longtemps. Hein.
Mon mari, ça fait 6 ans qu'il est décédé. Et ça fait plus de 6 ans. Ça fait 6 ans que j'ai fait le tour du cimetière. Et
elles ont pas été placées.
Elles y étaient déjà. Hein.
Elles n'ont pas été placées toutes à la même date non plus.
Oh, ben, la tôt, presque aussi sur le vieux cimetière, si. Et je reconnais que ça fait plus de 6 ans qu'elles y sont. Et donc ça fait largement 3 ans que vous auriez pu être, qu'il aurait pu être nettoyé, que c'est vraiment
un désastre. Il n'y a pas plus de 6 ans parce que je les ai posés avec la policière municipale et demanda.
La première année que mon mari était décédé, j'avais fait le tour du cimetière.
Il n'y a pas plus de 6 ans, on n'était pas au conseil. À l'époque, on n'était pas au conseil.
On les voit même plus.
Mais on vous rassure, il y a quelqu'un au niveau du salarié de la mairie qui travaille dessus et cette semaine, elle est en tour aux archives pour regarder justement des filiations pour savoir qui c'est. Et c'est très compliqué parce qu'il fallait voir dans des vieux papiers. Et voilà.
Il y a des constitutions qui sont
vraiment vieilles. Oui, il y en a vraiment plus vieilles. Il y a même un soldat, cette semaine, elle cherchait avec quelqu'un qui était un poilu.
Oui.
Un soldat pendant la guerre.
Oui, oui.
Est-ce qu'il y a d'autres questions encore?
C'est un délai de 5 ans. Il faut avoir pris des concessions. 5 ans minimum.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Donc je vous propose de passer au point suivant. Les délégations du conseil municipal au maire. Thomas, je te laisse la parole.
Oui, merci. Donc, dans un souci de favoriser une bonne administration communale, le conseil municipal peut, pour la durée du présent mandat, décider de confier à Madame le maire un certain nombre de compétences, conformément à l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Je vous précise que les délégations du maire permettent de favoriser la bonne administration communale, notamment en permettant d'avoir compétence pour agir dans des délais courts qui ne permettraient pas ou difficilement la convocation d'un conseil municipal. Toute décision prise au regard des délégations fera évidemment l'objet d'une information en conseil municipal. Enfin, je vous informe que dans la convocation, aucune limite n'a été précisée concernant le point 17 et qu'il est proposé d'ajouter dans la limite de 30 000 euros, le point 17 étant les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux.
Je vous propose donc pour la durée du présent mandat de me confier les délégations inscrites dans la convocation. Y a-t-il des remarques?
Monsieur Perrault, une toute petite remarque au point numéro 5. Vous avez ajouté au texte légal toute décision prise, d'ailleurs il y a une erreur d'une faute d'orthographe, dans la cadre, une deuxième faute d'orthographe, de cette délégation sera présenté au conseil municipal pour information. Alors, ça se heurte un petit peu au principe général de ces délégations, qui est, comme vous venez de le rappeler, le fait que toute décision qui est prise dans le cadre de ces délégations doit être présentée immédiatement au conseil municipal suivant la décision qui a été prise. Donc je vous propose juste de supprimer cette phrase qui n'a rien à faire ici.
Tout à fait, oui, c'est très pertinent. Donc, qui est pour? Je vous propose de procéder au vote hein, qui est avec la modification. Qui est pour? Voilà, l'unanimité. Le point suivant est la désignation des représentants communaux dans les associations. Alors, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État et aux guides pratiques de l'élu local édité par le gouvernement, le maire peut faire délibérer le conseil municipal sur des demandes intervenues postérieurement aux convocations, à la condition qu'elles soient liées à l'ordre du jour. Dans ces conditions et à la suite d'une demande écrite de M. Olivier Perrault, conseiller municipal, intervenu postérieurement à l'envoi des convocations, nous proposons au conseil municipal de délibérer sur la désignation des représentants de l'atelier des fêtes et loisirs à Saint-Germain, en plus de la désignation des représentants du Rameau d'Or. Alors, désignation des représentants de l'atelier des fêtes et loisirs à Saint-Germain. Il est précisé que les statuts de l'association prévoient que son conseil d'administration est composé de 3 membres élus par l'Assemblée générale et de 3 conseillers municipaux désignés par le maire de la commune. Je vous propose de désigner les représentants par vote à main levée. Sur ce principe, y a-t-il des remarques ? Qui est pour ? Je vous propose de désigner Thomas Théot, Philippe Pérardel et Gérard Bertin. Y a-t-il des remarques ? Qui est pour ? Ce point est adopté à l'unanimité. La désignation des représentants du Rameau d'Or, le relais d'assistante maternelle des Monts d'Or, a pour objectif d'améliorer les conditions et la qualité de la garde des enfants de moins de 6 ans au domicile des assistantes maternelles et ou au domicile des parents. Il s'inscrit dans le cadre d'un contrat petite enfance signé et renouvelé pour 5 ans en 2019 avec la Caisse d'allocation familiale de Lyon par 5 communes des Monts d'Or, Saint-Germain, Albigny, Curis, Paul-Émieux et Saint-Romain. Le Relais est une association de loi 1901, créée en 1994, gérée par un conseil d'administration dans lequel les élus des 5 communes, les parents, les employés au domicile des parents et les assistantes maternelles participent à la vie et au fonctionnement du Relais. Le fonctionnement du Relais est placée sous la responsabilité d'une animatrice coordinatrice du secteur. C'est une professionnelle de la petite enfance employée à plein temps par l'association. Elle a pour fonction l'information, la gestion administrative, l'animation et la coordination. Actuellement, et suite au départ de la précédente responsable, ce poste est vacant, un recrutement est en cours. Pour information, la subvention versée au Rameau d'Or en 2019 a été de 9 515 euros. Je vous propose, s'il n'y a pas d'autres candidatures, de désigner les représentants par vote à main levée. Y a-t-il des remarques ? Qui est pour ? Unanimité. Je vous propose de désigner d'abord en titulaire Élise Lavoué. Qui est pour ? À l'unanimité. Et en suppléant, Sophie Pélis. Qui est pour ? Adopté à l'unanimité. Le point suivant est la désignation des représentants aux syndicats intercommunaux. Je te laisse la parole, Roland.
Merci. Il convient de désigner des représentants titulaires et délégués de la commune auprès des différents syndicats intercommunaux. Le conseil municipal doit procéder au scrutin secret et à la majorité absolue du suffrage à l'élection des représentants. Je vous propose de procéder à la désignation des représentants des syndicats ci-dessous. Le CIGERLI, le syndicat mixte Plaine-Mont d'Or, le syndicat intercommunal de la gendarmerie de Neuville, le syndicat intercommunal du lycée Rosa Parks.
Y a-t-il d'autres remarques ?
On l'a suffisamment fait remarquer pendant 6 ans.
Pas de remarques ? Qui est pour ?
J'ai la lecture dans le paragraphe. Donc, il vous est proposé de voter par scrutin de liste comprenant à la fois les titulaires et les délégués.
Moi, c'est bon. Donc, toujours pas de remarques. Ok. Donc, qui est pour? Très bien. Adopté à l'unanimité.
Donc, pour le Sigerli, créé en 1935, le syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise, Sigerli, regroupe actuellement 66 communes, près de 880 000 habitants. Il privilégie la mutualisation des moyens et l'équité de traitement entre les communes et assure une relation de proximité avec les élus et les agents municipaux. Pour les représentants du Sigerli, la liste 1 est composée en délégué titulaire de M. Philippe Perardel, en délégué suppléant de M. Thomas Théon. Y a-t-il une autre liste? Donc, je vous propose donc de procéder au vote. Chaque conseiller se lève et dispose son bulletin dans l'urne. Merci d'utiliser le jet hydroalcoolique avant de manipuler les bulletins.
On peut peut-être le faire un malheur des sous. Vous en êtes d'accord? Vous en êtes d'accord?
Ok.
Très bien.
D'accord,
on va aller plus vite comme ça. Alors, qui est pour? Donc, à l'unanimité. Très bien.
Alors, le syndicat mixte Plaine Mont d'Or. Le site des Monts d'Or comporte plus de 2500 hectares d'espace naturel et agricole, dans lesquels le patrimoine naturel, paysager, bâti, les traces d'histoire, les activités humaines, ainsi qu'à la promenade et à la découverte, sortie pédestre, point de vue paysager, aqueduc romain, caborne, maison en pierre dorée, lavoir, etc. Le Conseil général du Rhône, la métropole de Lyon et 13 communes des Monts d'Or, dont Saint-Germain, se sont réunis dans un syndicat mixte pour préserver et mettre en valeur ce site remarquable. Pour information, la participation versée au syndicat mixte Plaine Mont d'Or en 2019 pour Saint-Germain a été de 6 831 €. Pour les représentants au syndicat mixte Plaine Mont d'Or, la liste 1 est composée en délégué titulaire de Béatrice Delorme et Thomas Théon, en délégué suppléant d'Anne-Françoise Gibert et Dominique Gallet. Y a-t-il une autre liste?
Donc nous pouvons procéder au vote. Qui est pour? Adopté à l'unanimité.
Donc, le syndicat intercommunal de la gendarmerie de Neuville. Donc le syndicat intercommunal de la gendarmerie de Neuville-sur-Saône réunit 11 communes. Albigny, Couzon-Mont-d'Or, Curis-Mont-d'Or, Sorgues-sur-Saône, Genet, Montanet, Neuville-sur-Saône, Polémieux-Mont-d'Or, Quincieux, Saint-Germain-au-Mont-d'Or et Saint-Romain-au-Mont-d'Or. Il a été constitué lors de la construction de la gendarmerie et il assure aujourd'hui la gestion des locaux. Neuville-sur-Saône est le siège du syndicat, les services municipaux en assurent la gestion. Pour les représentants au syndicat intercommunal de gendarmerie de Neuville, la liste 1 est composée en délégué titulaire de Béatrice Delorme et Philippe Perardel, en délégué suppléant d'Émilie Fengerolle et de Joris Renaud. Pour information, la participation versée au syndicat intercommunal de gendarmerie en 2019 a été de 815 €. Y a-t-il une autre liste?
Je vous propose de procéder au vote. Qui est pour? Adopté à l'unanimité.
Et pour finir, le syndicat intercommunal du lycée Rosa Parks. Quand a été prise la décision de réaliser le lycée du Val-de-Saône à Neuville-sur-Saône, les communes d'Albigny, Cailloux, Couzon, Curis, Florieux, Fontaine-Saint-Martin, Fontaine-sur-Saône, Genet, Montanet, Neuville, Polémieux, Roche-Taillé, Saint-Germain et Saint-Romain, situées dans le périmètre de recrutement des élèves, se sont associées en vue de la constitution d'un syndicat intercommunal, ce qui a été fait en septembre 2002. Aujourd'hui, les fonctions du syndicat sont resserrées principalement sur la gestion et l'entretien des bâtiments. Pour les représentants au syndicat intercommunal du lycée Rosa Parks, la liste 1 est composée en délégué titulaire de Christelle Boussard et Sophie Pellis, et en délégué suppléant de Gérard Bertin et Élise Lavaux. Y a-t-il une autre liste?
propose de procéder au vote. Qui est pour ? Donc adopté à l'unanimité. Le point suivant est la détermination du nombre de membres du conseil d'administration du CCAS. En application de l'article L123-7 du Code de l'action sociale et des familles, le nombre des membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale est fixé par le conseil municipal. Ce nombre ne pouvant pas être supérieur à 16 et inférieur à 8, puisqu'une moitié des membres est désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par le maire. Je vous propose de fixer à 10 le nombre des membres du conseil d'administration, étant entendu qu'une moitié est désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par le maire. Y a-t-il des remarques ? Qui est pour ? C'est adopté à l'unanimité. Maintenant, l'élection des représentants du conseil municipal et conseil d'administration du CCAS. En application des articles R123-7 et suivants du Code de l'action sociale et des familles, la moitié des membres du conseil d'administration du CCAS est élue par le conseil municipal au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Je vous rappelle que chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste, même incomplète. Les sièges sont attribués d'après l'ordre de présentation des candidats sur chaque liste. Le maire est président de droit du CCAS et il ne peut être élu sur une liste. La délibération du conseil municipal 2020-23 fixe à 10 le nombre des membres du conseil d'administration du CCAS. Je vous propose de procéder à l'élection des 5 représentants d'élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, avec pour la liste 1, Valérie Perardel, ensuite Stéphanie Faure, ensuite Marine Bigot, puis Anne-Françoise Gibert et en position numéro 5, François Dancourt. Y a-t-il une autre liste ?
Oui. Donc une seconde liste composée de... En 1, Marie-Danielle Pillard. En 2, Olivier Perrault. En 3, Christophe Vambel. En 4, Renaud Georges.
Très bien. Je vous propose de procéder au vote. Chaque conseiller se lève et dispose son bulletin dans le livre.
Pour ceux qui ont des pouvoirs, vous pouvez mettre deux en place. C'est quoi les pouvoirs ?
Donc la liste 1, c'est la liste qui a été présentée en premier. Donc Valérie Perardel, Stéphanie Faure, Marine Bigot, Anne-Françoise Gibert et François Dancourt. Et donc il y a des papiers blancs sur lesquels vous avez fait la liste 2. Pour la liste proposée avec vous.
Non, il y a des
papiers. Voilà, donc bah, moi j'ai des papiers. Donc avec liste 2, Marie-Danielle Pillard, Olivier Perrault, Christophe Vambel et Renaud Georges.
Thank you.
à double.
Pendant le vote, je peux vous poser une petite question concernant le CCAS. Est-ce que vous avez déjà procédé à la nomination des personnes qui, issues des associations réglementées qui doivent siéger au CCAS ? Des associations de handicapés, que du coup le CCAS va se retrouver à moitié doté ? Parmi les cinq personnes que vous désignez.
On n'est pas tenu de vous informer pendant le conseil des personnes qui ont été désignées.
Non, j'ai juste demandé si les personnes avaient été désignées. Voilà, je n'ai pas demandé leur nom, mais si elles avaient été désignées.
Vous inquiétez qu'on n'ait pas cinq autres personnes ?
Non, que ces personnes. Non. Est-ce que vous avez contacté les associations de handicapés, les associations familiales, qui doivent avoir un représentant au CCAS.
On a bien sûr, mais sur l'ensemble des associations qui peuvent prétendre avoir un représentant au CCAS, vous doutez bien que sur les cinq places que nous avons, voilà, tout le monde ne pourra malheureusement pas être représenté. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons déjà démarché des associations.
Ah oui. C'était la question.
Le travail est avancé, ne vous inquiétez pas.
Liste 1.
Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 2. Liste 2. Liste 2. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1. 4, liste 2, 19.
J'ai été alerté par le maire d'une commune voisine sur une décision que vous auriez prise de reporter sine die la phase 2 des travaux de réhabilitation de la rue du 8 mai 1945, dont le chantier devait commencer début juillet. Alors pour rappel, cette réhabilitation sur laquelle nous travaillons depuis 5 ans a pour but principal de sécuriser le cheminement piéton, notamment pour les centaines d'enfants qui vont prendre le bus avenue de la Résistance, et pour les personnes handicapées. Ce projet a été concerté, a fait l'objet de plusieurs réunions publiques, il a été financé, il a été voté par le Conseil de la Métropole dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement 2014-2020. Il a également pour objet de préparer la phase 3, qui a été également votée et financée dans le PPI 2014-2020, donc dans le but de permettre l'accès sécurisé en mode doux au parc des Gorges d'Enfer, qui est actuellement absolument inaccessible autrement qu'en voiture. Lors du conseil d'installation, vous scandiez qu'il était nécessaire de s'indigner. Eh bien, s'il ne s'agit pas d'une rumeur ou d'une incompréhension, permettez-moi de m'indigner. Parce qu'aujourd'hui, où des milliers d'entreprises vont mettre la clé sous la porte, où des centaines de milliers de personnes vont perdre leur emploi, les collectivités doivent être l'un des moteurs de la relance économique. Prendre une telle décision dogmatique, même s'il s'agit de prendre du temps pour analyser un projet que vous auriez pu suivre sur ces dernières années, d'ailleurs, me semble indigne et inconséquent. D'autant, même pour l'intérêt de la commune, qu'il n'est pas dit que si vous reportez le projet dans le cadre qui a été voté dans le cadre de la PPI 2014-2020, que vous ayez les crédits possibles autrement qu'en les prenant sur la PPI 2020-2026. Donc il y a une entreprise qui était prête à entamer dans quelques jours un chantier à 1 million d'euros. Au lieu de cela, du jour au lendemain, ce sont des dizaines d'ouvriers qui pourraient aller pointer au chômage. Vous aurez tout loisir de monter des projets dans les 6 prochaines années, mais vous verrez que le temps qu'on espère rapide et long est très long et que la mise en œuvre des investissements que vous envisagerez ne débutera pas avant plusieurs années. Ce n'est pas ce dont ont besoin nos entreprises aujourd'hui pour survivre. Donc j'espère que vous allez me rassurer qu'il ne s'agit que d'une rumeur et que les travaux débuteront bien début juillet comme prévu.
Je laisse votre appréciation sur nos actions dignes ou indignes. Ceci dit, je vous invite quand même à mesurer la portée de vos propos. Vous indigner est une bonne chose cependant. Je vous propose à Dominique de vous répondre et je pense que sa réponse sera en mesure de vous rassurer.
Oui, donc on a rencontré la métropole à propos de ce projet. Et effectivement, on a vu avec eux pour reporter à l'année prochaine les travaux pour différentes raisons. Les travaux n'auraient pas pu commencer avant la mi-août, quoi qu'il en soit, puisque les commandes n'étaient pas passées auprès des entreprises. Et ça demandait, après, ce décalage des travaux faisait qu'il y avait des difficultés avec les bus pour la rentrée, parce que les travaux concernent l'intersection, l'existence du 8 mai. Et puis, on a aussi souhaité, nous, effectivement, comme vous le mentionnez, s'approprier le projet. On s'est effectivement inquiété sur qu'est-ce que donnerait un report. La métropole nous a rassuré sur le fait que c'était des projets pluriannuels et que du coup il n'y avait pas de risque par rapport à.
Sauf si vous changez le projet.
Qui serait supprimé. Voilà.
Voilà, donc il n'y a aucune entreprise qui ne perd un marché. Voilà, si ça peut vous rassurer.
Oui, mais en tout cas, j'ai une entreprise qui est une filiale, enfin, via le maire d'une commune qui m'a signalé cela, c'est-à-dire qu'il y avait une entreprise, l'entreprise n'est pas rassurée, elle devait.
Voilà. Mais en fait, vous avez effectivement entendu des choses et la métropole nous a absolument assuré qu'il n'y avait aucun bon de commande qui était passé, aucune entreprise n'était positionnée sur ces travaux-là puisqu'ils n'étaient pas destinés à commencer immédiatement. Et donc, on pouvait tout à fait prendre un peu de temps et réfléchir notamment aussi à l'aménagement de la place Mozart pour laquelle il n'y avait par contre pas eu de consultation et un budget assez conséquent qui était prévu. Donc, ne vous inquiétez pas, tout ça sont des choses qui n'ont heureusement aucun impact économique.
On peut rajouter aussi que le fait de laisser la voirie ouverte cet été permettra au commerce du Vieux-Bourg de fonctionner, ce qui aurait peut-être été difficile si les travaux avaient lieu cette année, et surtout après les deux mois de fermeture pour certains, à cause du Covid. Donc ça aurait été vraiment une année très dure pour les commerces locaux, si on avait fait les travaux dans le foulé.
Monsieur Jean ?
Le premier point, les marchés étaient passés. Ils étaient passés. Oui. Bah écoutez, si.
Alors, renseignez-vous auprès de la métropole.
Mais absolument pas. Je les connais un petit peu, donc je sais ce qui se passe. Et les marchés étaient passés. Mais la commande. Mais la commande. Si je peux finir. Mais la commande n'avait effectivement pas été passée. Je vous suis plutôt sur le fait qu'à mon sens, il faut reporter ces travaux. Je suis honnête. Je pense qu'il faut les reporter, pas nécessairement pour changer, parce que là, ça arrive d'avoir une autre incidence. Qu'il faut les reporter pour la question. Pas des commerces, parce que c'est pas pendant l'été qu'ils font le plus d'affaires, c'est plutôt à la rentrée de septembre, mais simplement parce que si vous les démarrez maintenant, ça va forcément déborder sur septembre-octobre, et là ça va poser un certain nombre de problèmes, qui sont des problèmes de circulation.
Vous avez confirmé que c'était impossible de démarrer tout de suite, il fallait décaler.
Ils nous avaient dit beaucoup de choses aussi, puis en fait, l'impossible devient parfois possible, il faut en discuter. Par contre, j'appelle votre attention sur le fait que ces travaux, cette PPI, étaient financés phase 1, phase 2, phase 3, et que dans toutes les négociations que vous allez avoir avec la métropole maintenant, et avec le prochain exécutif de la métropole, ils feront tout, parce que c'est leur job, pour essayer de vous dire que c'est dans la nouvelle PPI qu'ils mettent ces travaux-là. Et par conséquent, on va faire perdre à la commune des millions de travaux possibles sur d'autres endroits. Donc soyez simplement attentifs à cela, parce que c'est probablement ce qu'ils vont essayer de faire, pour des raisons budgétaires au niveau de la métropole. Voilà.
Je peux vous rassurer, j'en ai parlé la semaine dernière avec la directrice générale. Donc il n'y a aucun souci là-dessus.
C'est la directrice générale.
Elle n'est pas politique.
Je ne sais pas de qui il s'agit. Je ne sais pas qui est la directrice générale.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
J'en ai une. Il y a dans le cadre du changement de ligne sur la ligne 21 qui avait été opérée quand on avait prolongé la ligne 21 en terminus à la gare de Saint-Germain, on avait fait rajouter un passage à 7h40, départ 7h40 de Saint-Germain, ce qui permettait aux enfants qui sont scolarisés à Civrieux de pouvoir prendre le bus du ramassage scolaire régulier au départ de Chasselet. Donc ce qui évitait d'avoir aux parents à s'organiser et les enfants pouvaient aller récupérer ça. Et ça permettait aussi d'avoir une tourne supplémentaire pour les usagers pour pouvoir rejoindre la gare de Lyon. Il semblerait, alors c'est à vérifier parce que je n'ai pas pointé les passages, hein, c'est des personnes qui m'ont dit ça, qui s'y sont intéressées parce qu'il y a, la reprise de l'école lundi prochain. Et apparemment, le 7h40 aurait été suspendu pendant le temps du Covid. D'accord. Donc est-ce que vous pourriez vous assurer auprès du Citral que ce soit effectivement pas le cas, ou en tout cas si c'est le cas, qu'il soit remis en service pour lundi? Et de diffuser auprès, enfin je sais, sur le tableau peut-être ce cas-là, pour que les gens sachent que c'est pas faire en place, pour que pour faire un affichage au moins en arrêt, enfin je ne sais pas comment.
D'accord, merci pour cette remarque, on va s'en occuper des deux.
J'aimerais, si vous voulez bien, que l'on reprenne, parce qu'on a voté quelque chose tout à l'heure, mais qu'on reprenne des modifications, puisque je pense que maintenant vous avez dû les mettre un petit peu ça au clair, il y a des modifications qui ont été faites à la délibération qu'on nous a donnée au vote, parce que moi j'ai proposé des modifications, vous ne nous avez pas dit, mis à part le fait de retirer les indemnités du maire de cette délibération, vous ne m'avez pas dit si vous aviez bien pris la disposition concernant le délai, différentes choses, enfin différents points, je ne sais plus ce que je vous ai dit. Mais...
Ce point a été voté, il me semble que vous avez voté contre.
Oui, tout à fait, mais par contre, je n'ai pas vu cette délibération.
D'accord, donc vous l'avez.
Et personne ne l'a vu. Et voilà. Mais bon. À minima, j'aimerais en être destinataire, en même temps que, et peut-être ainsi que l'ensemble des conseillers, au moment de l'envoi au contrôle de légalité, ne serait-ce que pour être informé de ce sur quoi on a voté, puisque vous nous avez fait voter rapidement quelque chose qu'on n'a pas vu.
Si jamais il s'avérait que ce qu'a dit le conseiller municipal Olivier Perrault tout à l'heure était juste, c'est-à-dire que cette délibération n'est pas légale, j'appelle juste l'attention de tous. Je sais bien que tout ce qui est rémunération et indemnisation des élus, c'est quelque chose qui est planifié un peu en avance, forcément. Donc là, on est à la mi-juin, normalement les choses sont prêtes pour la fin du mois. Si jamais vous appuyez sur le bouton du versement d'indemnités qui, au final, seront illégales, d'après ce que nous disons, eh bien dans ce cas-là, il faudra que les conseillers municipaux rendent de l'argent. Donc je veux juste dire que si nous avons raison sur cette question de l'illégalité, il faut juste que vous soyez prudent sur ce que vous ferez de cet argent, parce que vous risquez de devoir le rendre. Voilà.
Oui, bien sûr, et on en sera informé très rapidement si nous sommes dans l'illégalité, puisque cette décision passera par le contrôle de l'égalité.
Bien sûr.
On aura la réponse très rapidement, mais c'est sûr que, heureusement pour nous, on ne prend pas un grand risque en votant aujourd'hui cette délibération.
Mais afin
est-ce
de
qu'il
pouvoir...
y a d'autres questions, parce que ça serait peut-être intéressant qu'on passe à autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On en a longuement parlé, hein, c'est pas pour... Non. Je vous propose de lever cette séance du conseil municipal et je vous remercie de votre participation.
Et moi j'ai le temps de... Mais je ne sais pas.